Alors, bienvenue encore au culte merveilleux d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse aller directement dans les Écritures pour étudier ce que Dieu a à nous dire en rapport avec sa parole. Ok. Prenez Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Ok. La Bible a été écrite en majoritairement 5 langues. Jean 1, 1. Tout Jean, chapitre 1. Tout le chapitre. Alors, observez ceci dans les Écritures. Bon, en quelle langue la Bible a-t-elle été écrite? En hébreu, en grec, quoi d'autre? Arméen, c'est juste, quoi d'autre? Il y a deux langues que beaucoup oublient. Grec, oui. On a déjà dit grec. En romain? En latin? Non, alors le latin, non, mon champion. La Bible a été aussi écrite en babylonien, une partie, et une partie en langue mésopotamienne. Tout Daniel chapitre 5, c'est, je crois que c'est chapitre 5, a été écrit en mésopotamien, en babylonien, la langue de l'Empire de Babylone. Donc, la Bible, mais le Nouveau Testament a été écrit majoritairement en deux langues. Lesquelles? Le grec, et quoi d'autre? L'arméen. L'hébreu ancien était une langue très peu parlée, parce que le grec était l'anglais un peu de l'époque. Tout le monde parlait l'anglais. Tout le monde parlait grec, pardon. Tout le monde parlait grec. C'était une langue qui était utilisée dans l'Empire romain, dans l'Empire grec, qui étaient les deux gros empires. Donc, si on regarde dans les Écritures, quelque chose d'intéressant, c'est que l'Ancien Testament a été majoritairement écrit en hébreu, qu'on appelle masorétique. Enfin, précisément, c'est les manuscrits qu'on a encore, mais on pense qu'il a été écrit en hébreu ancien, qui est encore autre chose. L'hébreu ancien, c'est encore plus vieux, vous voyez. Et le Nouveau Testament aurait été donc écrit majoritairement en araméen et en grec. Il y a une raison pour laquelle c'était comme ça, parce que l'araméen était la langue maternelle du Seigneur, et est probablement la langue maternelle de beaucoup de ses disciples et de Paul, mais c'était également en grec majoritairement, parce que la plupart des églises à qui Paul et les apôtres écrivaient étaient des églises situées dans des endroits où on parlait grec. Par exemple, quand Paul écrit aux Romains, il écrit en grec. Il y a une raison, c'est que les Romains parlaient grec, en partie. Il y a aussi une raison quand il écrit à Colosse, à Galate, quand il écrit à Éphèse, il écrit toujours en grec. Et de nouveau, il y a une raison, c'est parce que c'était leur langue. Et Paul, qui était un homme éduqué, parlait le grec. Maintenant, vous devez comprendre que chaque langue, et par langue j'entends donc dialecte et tout ça, a une manière de conceptualiser certaines idéologies. D'accord ? Donc ça veut dire que par exemple, en français, on a cet élément qui est commun dans beaucoup de langues, c'est ce qu'on appelle le formel. D'accord ? Donc par exemple, si on s'adresse à une personne plus âgée ou avec qui on doit s'adresser de manière formelle, on va utiliser « vous ». D'accord ? Ce concept n'existe absolument pas en anglais, par exemple. Vous voyez ? Donc certaines langues, elles vont avoir des manières de parler, des manières d'exprimer des idées qui vont changer les unes des autres. Donc si par exemple une personne de langue maternelle française venait dire « tu » à son directeur, moyennant que ce n'est pas la culture d'entreprise, ce serait assez mal vu. Par contre, si c'est un anglophone qui a appris le français et qui le fait, il y a des grandes chances que ce soit quand même un peu toléré. Vous voyez ? Parce qu'on sait qu'il se trompe et tout. Moi, mon ancienne patronne, c'était ça, elle était anglaise, elle a appris français, et à cause de ça, elle confondait le « tu » et le « vous ». Donc elle passait du « vousoiement » au « tutoiement » très facilement. Et vous voyez, ça ne dérange pas, parce que c'est normal. Maintenant, la Bible a été écrite en grec. Et en grec, on a un truc très intéressant, c'est qu'on a beaucoup, 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 beaucoup de mots, beaucoup de vocabulaire, qui des fois se traduisent par un seul mot en français. J'aimerais qu'on voie aujourd'hui on va répartir ça sur plusieurs dimanches, parce que c'est quand même assez costaud, mais j'aimerais qu'on puisse voir les trois types de discours. Il y a trois types de discours dans la Bible qu'on va trouver. Et par discours, j'entends des mots qu'on a essentiellement traduits « parole » ou « parler » en français. Mais en grec, il y en a trois différentes, ces mots, et ils expriment les trois des idées très différentes et des utilisations très différentes aussi que nous, avec notre langue française un peu plus limitée à ce niveau-là, on a tout mis sous le terme « parole » ou « dire ». Donc là, j'aimerais qu'on voie, et je vais vous le dire les trois, je vais vous en dire deux déjà. Le premier, c'est le terme grec pour écrire « logos », et le deuxième, c'est le terme grec, qui c'est qui a déjà entendu ça, « rhéma ». Voilà, c'est un terme grec. Et il y a une mauvaise compréhension que veut dire « rhéma » dans le monde, dans le corps de Christ, parce que beaucoup pensent que ça veut dire la parole révélée de Dieu. Les gens qui disent que quand la parole logo s'est révélée, elle devient rhéma. Et en fait, ce n'est pas ça. La parole rhéma, c'est la parole qu'on prononce nous. Parce que la parole de Dieu écrite, elle est déjà puissante. Alors, on va étudier aujourd'hui la parole logos, justement. Vous voyez ? Regardez. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Quand il parle de là, il parle de logos. Mais ça veut dire quoi, logos, en grec? Qu'est-ce qu'on entend quand on dit logos? D'ailleurs, c'est un terme qui est très utilisé encore aujourd'hui, même en français. On va dire un logo, il exprime une idée. Logopédiste, il va apprendre à délier la langue. Ce qui d'ailleurs est faux, parce que un logopédiste, si on voudrait être exact, logos, c'est un message qui est transmis par des mots. C'est ça, c'est un message. Donc par exemple, si j'écris un SMS à quelqu'un, ça va être un logos. Vous comprenez? Si je parle avec quelqu'un, ça ne va pas forcément être un logos. Ça peut, mais c'est surtout qu'on transmet un message d'une manière générale. Vous voyez? Donc là, la conceptualisation d'une idée va passer par le logos. D'accord? Regardez. Donc là, il dit, au commencement était la parole, et là, c'est de nouveau logos. D'accord? Et la parole, logos, était auprès de Dieu, et la parole, logos, était Dieu. Notez bien le temps verbal, était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui était fait. Donc vous voyez, juste parce qu'on prononce une parole, ne veut pas dire qu'elle change, hein. Logos, c'est transmission d'un message. C'est ça en général. On transmet un message par l'écriture. Que ce soit l'écriture ou même une parole parlée. On transmet quelque chose. Vous voyez? Donc là, Dieu nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu même. Et ensuite, il explique. Tout ce qui a été fait par le logos de Dieu, par la transmission d'un message. Continuons. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Remarquez qu'il ne parle pas encore de Jésus-Christ, hein, pour ceux qui ont déjà lu ce verset-là. Là, il parle de la parole qui a été donnée depuis le commencement. OK? Continuons. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Remarquez le terme compris, hein. Vous suivez là? C'est pas dit, certaines versions, elles vont dire ne l'ont pas reçu. C'est juste en soi. Mais c'est ne l'ont pas comprise. Ils n'ont pas compris le message qu'il y avait derrière cette parole donnée par Dieu. OK? Continuons. Élu en homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Donc c'est cette parole. Était dans le monde, et le monde fut fait par lui. Notez bien qu'il dit lui maintenant. Il a changé. Il dit plus elle, la parole, il dit lui. Lui, il a créé la parole. Lui, il a créé le monde. Okay? Et le monde ne l'a pas connu. De nouveau, il vint chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. Continuons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu ou de devenir enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Donc la parole de Dieu est apparue avec un message pour l'humanité et ceux qui l'ont reçu ont reçu en même temps la puissance de devenir enfants ou littéralement fils de Dieu. Continuons encore. Lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, on va juste encore comprendre quelque chose. Et la, oui, tu peux mettre le 14. Et la parole est devenue ou devint chair, et elle habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Donc la parole est devenue un être humain. Mais avant ça, la parole était, regardez, le message de Dieu. Dieu avait un message, il avait un logos pour l'humanité. D'accord? Dieu avait un message. Dites, Dieu avait un message pour moi. Donc Dieu avait prévu un message à transmettre aux êtres humains. Et au fur et à mesure de l'Ancien Testament, il l'a révélé petit à petit, ce message. C'est même ce message qui a fait que l'humanité existe, que la terre existe. Ce qui montre d'ailleurs que Dieu a créé toutes ces choses pour nous. D'accord? Parce qu'il avait un message pour l'humain. D'accord? Et il a créé toutes choses. La Bible dit tout ce qui est devenu, tout ce qui est venu à l'existence par la parole de Dieu. Dites, je suis le résultat de la parole de Dieu. D'accord, donc tout ce que Dieu a créé par son message, vous comprenez? Son message était destiné à l'être humain parce que Dieu a créé la terre et l'univers et les plantes et les animaux et toute la nature, toutes les richesses, il les a créées par son message pour l'humanité. Ce qui veut dire que l'humanité est le point central du message de Dieu. D'accord? Dites, je suis le point central de Dieu. Soyez sérieux, hein. Je suis le point central de Dieu, dites-le encore. Gloire à Dieu, parce que Dieu a un message. Et vous devez comprendre que ce message a été transmis par les prophètes d'abord. D'abord Moïse, ensuite on a eu Josué. Ensuite, on a eu les juges qui ont écrit les messages de Dieu. Et tous ces messages-là étaient un logo, c'était un message que Dieu avait à transmettre à l'humanité. C'était la conceptualisation d'une idée divine que Dieu avait pour les humains. D'accord? Vous suivez jusqu'ici, c'est tout bon? Super. Donc Dieu a pris l'entier de ce message et l'a fait résider en Jésus-Christ. Donc tout ce que Jésus est, tout ce que Jésus faisait, était un résultat direct de ce message. Vous comprenez? Donc Jésus-Christ est le résultat du message de Dieu sur terre. Et c'est par ce message que vous avez aujourd'hui une victoire absolue. Donc quand Jésus guérissait les malades, hein, il manifestait le message de Dieu. Vous suivez? Quand Jésus chassait les esprits mauvais, il manifestait le message que Dieu avait pour l'humanité. Quand Jésus ressuscitait des morts, c'était le message pour l'humanité. Mais surtout, ce que Jésus a fait sur la croix est le résultat du message que Dieu a pour l'humanité. Parce que Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, sur terre? Dieu avait un message à transmettre à l'humanité. Dit Dieu a un message pour moi. Et donc, ce message, Christ a été encapsulé, ce logos, Christ a été encapsulé, ou plutôt Christ était l'encapsulisation, ça se dit? Bon, alors, Dieu a pris la parole de Dieu et l'a encapsulé en un être humain qui s'appelait Christ. Voilà, merci beaucoup, on s'est compris. Donc, Jésus-Christ était la manifestation en chair de ce message. Et ce message, il est résumé ici, plein de grâce et de vérité. Ça, c'est le message, c'est le résumé global du message de Dieu. Dites plein de grâce et de vérité à mon égard, à l'égard du monde, à l'égard de la nature, de la création, à l'égard de mon esprit, de ma santé, de ma prospérité, de mon gain d'âme, à l'égard du royaume. Gloire à Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous voyez? La parole est devenue chair, elle habitait pleine de nous, pleine de grâce et de vérité. Donc l'ensemble qui Dieu était a été mis, l'ensemble du message que Dieu avait pour l'humanité a été mis en Jésus-Christ. Mais vous savez, ce message, on doit commencer à le comprendre un peu plus maintenant. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que Dieu est venu faire? Qu'est-ce que ça implique, ce logos de Dieu? Ou, vous savez, vous avez noté logos, c'est bon? Donc, vous voyez, en français, on a même utilisé le terme logos pour parler des logos, qui est une image, hein, mais quelques textes des fois. Et l'image, elle est censée transmettre un message, vous voyez. Donc, c'est même utilisé encore aujourd'hui dans notre conceptualisation de, on va plutôt dire, dans l'héritage de nos langues modernes. Vous voyez? Donc, Dieu a un message pour vous. Et ce message-là, il est résumé dans une chose. Donc, on comprend ici que la parole de Dieu, qui était le message de Dieu, donc les prophètes qui ont parlé, les juges qui ont parlé, tous ces gens, alors les justes et les prophètes aussi, hein. Tous ces gens-là, Dieu a pris cette parole qui a été prononcée par des humains et il en a fait un corps humain. Et tout ce que Jésus-Christ était, tout ce que Jésus-Christ était, était le reflet direct de cette parole, pleine de grâce et de vérité. D'accord? Dites pleine de grâce et de vérité. Regardez Colossiens chapitre 2. Vous voyez, c'est pour ça qu'on doit avoir cette compréhension de cette parole de Dieu. Parce que c'est par elle qu'on a la victoire constante et absolue. Vous vous rendez compte que Dieu nous appelle à avoir une victoire constante et absolue? Dites constante et absolue. Vous êtes bien concentrés, hein? Colossiens 2, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Colossiens 2, 6 à 10. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Oh. On peut avoir le verset 7. Marchez en lui, enraciné et édifié en lui, affermi dans la foi, selon ce que vous avez été enseigné. Donc vous voyez, la parole de Dieu vous amène un enseignement. La parole de Dieu, cette idée que Dieu a au sujet de l'humanité, en Jésus-Christ, on marche là-dedans. Et Dieu marche dans cette victoire constante. Après, il dit, abondant en elle avec des actions de grâce. Okay, continuons au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions, selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde, et non selon le Christ ou selon Christ. Et après, il précise, car, en français, c'est quoi comme mot car? C'est un Une quoi? C'est un truc qui permet de lier deux phrases. Une conjonction de coordination. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez, donc c'est un terme grammatical, merci, qui justement fait une liaison avec ce qui est dit. Par exemple, si je dis j'enlève ma veste car il fait chaud. Donc le il fait chaud co est une causalité qui fait que j'enlève ma veste. Donc là, il dit, verset 8, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et par de vaines déceptions, selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde et non selon Christ. Juste verset 8, on reste. Hein. Donc il dit, faites gaffe que personne ne fasse de vous sa proie. Ça sous-entend que la personne est un prédateur, hein, qui veut vous prendre quelque chose, qui veut vous voler quelque chose, d'accord? Ça, c'est typiquement ce qu'on entend avec certains enseignements, que si vous ne donnez pas vos dîmes, Dieu va vous faire tomber le ciel sur la tête. Ça, typiquement, c'est des prédateurs qui font de certaines personnes leur proie par des enseignements trompeurs. D'accord? Mais après, il précise pourquoi est-ce que vous ne vous laisseriez pas séduire par des faux enseignements. Il précise, regardez, verset 9. Il dit, car en lui habite toute la plénitude de la déité corporellement. Ça veut dire que en Jésus-Christ, le message, Jésus est le message, dites Jésus est le message. En chair, en être humain. Et donc là, vous savez, comme si ce n'était pas aussi merveilleux que Dieu avait un message pour nous, parce que vous savez, Dieu pourrait avoir juste son message pour nous et puis le reste, il ne nous le donne pas. Vous voyez? Mais si ce n'est pas assez merveilleux, l'entier du message de Dieu pour l'humanité, donc Jésus-Christ, c'est la déité, c'est la plénitude de la déité. La déité, ça veut dire ce qui est Dieu. Donc le message que Dieu a pour vous, c'est lui-même. Vous comprenez? C'est tout qui il est, tout qui est Dieu habite corporellement en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que vu que Jésus-Christ est le message, vous voyez, on a compris, Jésus-Christ c'est le message qui a pris une forme humaine, hein, c'est clair là? Et après on apprend que ce Jésus-Christ est également la plénitude de qui est Dieu. Qu'est-ce que ça sous-entend alors? Que le message est la plénitude de qui est Dieu. Et on a vu ce message, il est composé essentiellement de deux choses, vérité et grâce. Qu'est-ce qui est toujours grandissant dans votre vie? La grâce fait partie des sept points qui sont toujours grandissants dans votre vie. Amen. Dites, je grandis en grâce. Et donc l'entier de la grâce et de la vérité sont en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est cette image de Dieu sur terre. Et son œuvre est le message que Dieu avait. Non seulement ce message, mais ce message consiste à l'entier de qui est Dieu. C'est merveilleux ça. Hein? Donc qui que ce soit qui ose vous dire une fois que Dieu ne veut pas la santé divine, pointez-le à Jésus et regardez ce que Jésus faisait. Il guérissait où qu'il aille. Il prospérait les gens où qu'il aille. Il pardonnait les gens où qu'il aille. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux ça? Continuons juste. Verset 10. Et vous êtes accompli en lui qui est le chef de toute principauté et autorité. Accompli, ça veut dire vous êtes rendu parfait, juste pour ma version. Vous êtes comblé, ma version, elle dit. Dites, je suis comblé en Christ. Par son logos. Par son message. Et vous êtes comblé en Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait sa demeure en vous et vous êtes la victoire constante et permanente de Jésus-Christ pour votre monde. Et donc Jésus nous explique clairement le message de Dieu, le logos de Dieu, cette idée qu'il avait pour l'humanité non seulement a été mise en Jésus-Christ, mais en plus cette idée consiste à Dieu lui-même. Donc il a dit, il va s'offrir à l'humanité. Vous comprenez? Qu'est-ce que Jésus a bien pu venir faire sur terre? Vous savez, ça c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Jésus, il n'est pas juste venu nous sauver de l'enfer. Hein, d'accord? Si c'était juste ça, bah il aurait échoué, parce que plein de gens vont en enfer quand même. D'accord? Jésus n'est pas venu pardonner nos péchés, alors il l'a fait, attention, hein, mais il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour ça. D'ailleurs, si on est très exact, il n'a pas pardonné nos péchés, il a fait la rémission de nos péchés, ce qui est beaucoup plus grand. Je sais que certaines versions vont dire pardonner, mais si vous regardez bien en grec, c'est toujours la rémission des péchés. Dieu pardonnait les péchés dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, la rémission a été accomplie. La rémission, ça veut dire que. Par exemple, si je prends quelqu'un, je ne vais pas prendre quelqu'un pour pas embarrasser, mais le pardon des péchés, c'est la chose suivante. Telle personne a fait telle erreur, on note qu'elle a fait cette erreur, mais on la note comme pardonnée ou payée ou faite. D'accord? Donc c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un a volé 100 francs, on note qu'il a volé 100 francs, il a repayé les 100 francs, on note que c'est repayé, donc le cas est clos et pardonné. D'accord? Maintenant, ce n'est pas ce que Jésus est venu faire. Jésus, lui, il est venu faire la rémission des péchés. La rémission, c'est quoi? C'est qu'à la place de noter que le péché est OK, qu'il est checké, qu'il est fait, qu'il est réglé, le péché est effacé complètement. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus profond. Et c'est pour ça que Jésus est devenu le péché et qu'il est mort en étant le péché, vous voyez? Donc, le péché a été tué à la croix avec Christ. C'est pour ça qu'il a été effacé et que la rémission est absolue. Vous voyez? C'est pour ça que vos histoires là, hein, j'ai encore fait une bêtise, Seigneur, est-ce qu'il va m'accepter? Ça, c'est fini. Parce que, en ce qui concerne Dieu, ce péché a été crucifié une fois pour toutes et il est mort, mort, mort. Si vous continuez à vous comporter comme des idiots alors que Dieu vous a racheté, c'est votre problème. C'est pas le problème de Dieu. En ce qui concerne Dieu, je ne vais pas dire qu'il n'est pas au courant parce qu'il n'est pas stupide, Dieu, hein, d'accord? Mais pour lui, ça ne compte pas parce qu'il interagit sur la base de votre esprit. Et en ce qui concerne votre esprit, si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, la rémission est absolue et constante. Constante. Dites, ma rémission est faite. Mais est-ce que Jésus est même venu faire cette rémission des péchés? Est-ce que c'était son but? Quel est le message, ce fameux logos que Dieu a pour nous? Dis-Dieu un message pour moi. Un message merveilleux qui transforme ma vie. Revenons sur ce message. Dites Dieu un message. Ce message, c'est lui-même. Allez, ce message, c'est lui-même. Et ce message est venu à moi. Ok, donc en Jésus-Christ, regardez, et c'est là la chose merveilleuse. Ce message vous concerne vous. Parce que, regardez, est-ce que Dieu lit sa Bible? Est-ce que même il a une Bible? C'est une vraie question, hein. Est-ce que Dieu lit sa parole? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est comme ça avec sa Bible sur les genoux à faire Hein? Ouais, vraiment. Vraiment, je suis quand même le Big G, quoi. Moi, je suis le... Vous voyez, non. Est-ce que Dieu lit sa Bible? Non, c'est un message de Dieu pour l'humain. Mais ce message, c'est lui-même. Ça émane de lui. Vous voyez, Dieu est santé. Dites Dieu est santé. Mais alors, qu'est-ce que Jésus est venu faire? C'est quoi ce message ultime? Parce qu'il y a ce message geek. Ouh, c'est pour ça que vous savez, vous devez commencer à être très heureux de ce que Dieu a fait. Ne laissez pas la dépression venir, ne laissez pas la tristesse venir. Quand vous savez ce que Dieu a fait, vous ne pouvez pas tolérer ce genre de choses. Regardez, Christ est venu sur terre. Regardez ça. Et ce message, c'est la grâce et la vérité. La réalité est en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte de ça? Vous dites ma réalité est en Jésus-Christ. Et par cette réalité, je vis et je me meus. Mes finances sont prospères. Ma santé progresse. Vous voyez, c'est ça que Dieu a prévu. C'est ça ce message. Mais ce message, après, vous devez le transmettre. Mais quel est ce message? Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre? C'est très important ça. On doit se poser ces questions en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi Jésus est venu? Est-ce qu'il a réussi ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a voulu faire? Est-ce qu'il a tenté? Est-ce qu'il a réussi? Si vous savez ce que Jésus a fait, même moi encore, je le découvre tous les jours en lisant les Écritures. Parce que Jésus est le message illimité de Dieu, de son amour illimité, de sa grâce illimitée qui est toujours croissante. Et c'est pour ça qu'elle peut être toujours croissante, parce que vous arrivez à un niveau de grâce, disons 100, n'est-ce pas? Ensuite, vous progressez au 120, ensuite, vous progressez au 200, ensuite, vous progressez au 1000, et en fait, vous progressez constamment. Dites, je progresse non-stop. Toujours vers le haut. Que de l'avant. C'est ça que Dieu a prévu pour nous. Et donc ce message est en Jésus-Christ, vous voyez? Et qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? Parce que c'est ça ce message finalement. Oh, Jésus-Christ est venu nous pardonner de nos péchés. Non. Jésus-Christ est venu nous guérir de nos maladies. Non. Et c'est marrant parce qu'il l'a fait en faisant ce qu'il a fait, vous voyez? Mais c'est pas pour ça qu'il est venu. Vous voyez? C'est comme si, vous voyez, tout ça, c'était des portes d'entrée. Imaginez que vous venez à l'église et vous restez dans la porte. Non, vous n'êtes pas venu pour être à la porte, on est d'accord. On est venu pour s'asseoir, communier avec les gens. Mais si vous restez dans la porte, vous n'avez pas accompli votre œuvre. Par contre, pour faire votre œuvre, vous êtes obligé de passer la porte. Vous voyez? Pour venir à l'église, vous êtes obligé de passer la porte. Eh bien, c'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Pour faire son œuvre finale, il était obligé de nous faire la rémission des péchés, obligé de guérir nos maladies, obligé de nous faire prospérer, obligé de payer ce prix ultime. C'est pour ça qu'il l'a fait. Et c'est pour ça que cette question de est-ce que Dieu guérit ou pas n'est même pas une question. Parce que c'était la porte d'entrée que Jésus a dû franchir pour faire ce qu'il a fait pour nous. Vous voyez? Même chose pour la prospérité, même chose pour le pardon, même chose pour la rémission. Arrêtons de toujours penser que Dieu nous en veut, hein. Vous savez, c'est pas un bébé, Dieu. Il n'est pas facilement offensable, hein. Vous savez ça? D'ailleurs, la Bible précise, le seul endroit où on voit dans la Bible qu'on peut offenser le Saint-Esprit, c'est Bah tiens, mets-le en fait. Éphésiens chapitre 4, verset 30, ça va être marrant, vous allez voir. Donc on peut l'offenser, mais il n'en fait rien, vous allez voir. Il peut être attristé par notre attitude, mais il va rien faire de spécial parce qu'il est attristé, vous allez voir. Bah souvent, les gens manipulent les chrétiens en disant: tu peux attrister le Saint-Esprit, attention, tu attristes. Tu donnes pas d'adime, t'attristes le Saint-Esprit. Regardez ce que la Bible dit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et après, il précise: par lequel vous avez été scellé. Donc même si vous l'attristez, vu que vous êtes scellé avec lui, il part pas. Nous, quand on était gamins, on allait dans une église vers Yverdon. On nous disait: vous pouvez attrister le Saint-Esprit, il s'en va. Il est triste, il voulait parler mal, il s'en va. On dit: oh, c'est bon, le Saint-Esprit n'est pas comme ça, avec son pouce dans la bouche. Hein. D'accord? Dieu est puissant. Dites: Dieu est puissant. Vous savez quoi? En fait, il est tout puissant. Dites: il est tout puissant. Alléluia. Donc, regardez, quelle est cette idée que Dieu. Donc, Dieu a franchi cette porte de la santé. Il a franchi cette porte de la rédemption. Il a franchi cette porte, vous voyez? Mais pourquoi? C'était quoi l'idée? C'était de reproduire sa nature en vous. Et comment il le fait? Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Dites: je suis plus que vainqueur. Dites: ma vie est prospère. Et j'avance à tous égards. Le mot de Dieu. Oui, le mot de Dieu. J'ai bien dit ça. Vous avez bien entendu. Qui c'est qui m'a compris ça, puis qui a compris que je blasphémais? Ok, gloire à Dieu. Notez, c'était Fatih. Hein. Ok, gloire à Dieu. Dites: la parole de Dieu a fait mon identité. Et je suis ce reflet. Alléluia. Ouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dites: je suis prospère. Hébreux chapitre. Pardon, 1 Pierre chapitre 1 et verset 23. Darby, ouais. Vous voyez, c'est pour ça que votre vie ne peut que être un résultat de constant succès. Comment est-ce qu'on peut échouer? Moi? Échouer? Moi? Vous êtes prêts? Préparez-vous. Pour dimanche prochain, on va voir le rhéma de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu dans notre bouche. Et le dimanche d'après, on va voir le discours de Dieu. Vous allez voir. Très puissant, très très puissant. Je ne vous dis pas le mot grec parce que je l'ai oublié, le troisième. Je l'ai noté quelque part, donc vous en faites pas. Donc, vous allez comprendre des choses, parce que là, il y a le message que Dieu a pour vous. Après, il y a la parole de Dieu dans votre bouche. Et après, il y a votre discours continuel de victoire et de succès. Ça vous dit quelque chose? Je vous donne un petit quelque chose dans la Bible, rapidement. Ça vous dit quelque chose quand ils sont... Jésus est en train d'être amené pour être crucifié et torturé. Et là, la Pierre, il passe comme ça, ils lui disent: toi, tu étais avec lui. Ça vous dit quelque chose, hein? Il dit: non, non, je n'étais pas avec lui. Là, il papote un peu avec des gens, ils disent: toi, d'une manière certaine, tu étais avec lui. Et là, ils disent: non, non, je n'étais pas avec Jésus. Et là, il y en a un autre qui lui dit quelque chose qui est dingue. Il lui dit: certainement, ça veut dire de manière absolue, tu étais avec lui, car ton discours te trahit. Ça veut dire qu'il avait été condensé à parler d'une certaine manière. Vous voyez, il y avait la victoire en lui. Il y avait quelque chose en lui. L'enseignement du Christ faisait que, même quand il était comme ça, il parlait d'un truc, les gens voyaient qu'il avait été avec Christ de la manière dont il parlait. Vous savez, une fois, j'étais dans l'avion. J'allais au Nigeria. Et on avait eu une petite panne avec l'avion. Et on était comme ça posés. Et je parlais avec deux, trois personnes dans la classe affaires où on était. On papotait comme ça. Puis il y a un gars, il me fait: vous êtes de Christ Embassy? Et j'ai fait: oui. Puis il dit: ah, j'ai reconnu comme vous parlez. J'étais là: oh! Vous voyez, donc la culture, vous voyez, parce que les gens étaient fâchés à cause de l'avion. J'étais là: ah non, mais je suis prospère à tous égards. Je parlais avec eux. Vous voyez. Et puis du coup, ils disaient: oh, toi, tu es de Christ Embassy, je pense. J'étais là: oui, exactement. Bah, après, c'est les gens qui connaissent l'église là-bas, elle est très grande, vous voyez. Mais c'était quand même puissant, vous voyez. Le message, vous portez ce message, vous voyez. Regardez. Ok, une seconde, une seconde. Ouh, alléluia. Vous qui êtes régénérés, régénérés, ça veut dire né d'une nouvelle foi. C'est pour ça que Jésus a dit: vous devez naître de nouveau. Il dit quoi? Non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole, logos de Dieu. Donc la parole de Dieu a fait que vous êtes né de la parole. Dites-moi, est-ce possible, et ce n'est pas une question piège, donc répondez juste avec votre instinct, est-ce possible qu'une girafe donne naissance à un hippopotame? Non. Et vice-versa? Non plus. Qui c'est qui a dit oui? C'est Antoine qui a dit oui. Notez. Non, c'est pas possible, Antoine. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, passer les enfants, mais c'est pas possible. Donc, si vous êtes né de la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes vous? Glorieux? Beaucoup plus simple. C'était quoi la réponse? Hein? Précisément, on est là. Non, pas des anges. Je... Donc, non, attendez. Si je suis la progéniture d'un humain, qu'est-ce que je suis? Voilà, donc si je suis la progéniture de la parole, qu'est-ce que je suis? Merci. Ok, voilà. était si dur, et je vais vous le prouver par les Écritures. Vous savez que le vous qui est né de Dieu est la parole de Dieu ambulante. Oh, alléluia. Dites, je suis né de la parole. Donc Jésus-Christ est la parole, n'est-ce pas? 1 Jean chapitre 4 et verset 17. Ouh, alléluia. Dites, je suis puissant. C'est pour ça que vous pouvez, vous voyez, parce que Jésus, vous êtes la parole, vous êtes le logos de Dieu. Vous voyez? Donc le logos, rappelez-vous, c'est surtout un message qui peut être écrit. Hein. C'est pour ça que des gens des fois disent, le logos, c'est la parole écrite de Dieu. Alors, ce n'est pas seulement ça, mais souvent, c'est un message qu'on va écrire. OK? Donc, il nous dit. Alléluia. En ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement. C'est que comme il, Jésus-Christ, est lui, nous sommes aussi dans ce monde. Donc, tel que Jésus-Christ, pardon, tel que Jésus-Christ est, tel vous êtes, ou dans ce monde. Dites tel Jésus est, tel je suis. Dans ce monde. Et Jésus, c'est quoi déjà? La parole. Donc, tel que la parole est, tel que vous êtes dans ce monde. Donc, ça veut dire que si Jésus est la parole et que vous êtes comme Jésus, ça veut dire que vous êtes la parole de Dieu en action. Ça veut dire que vous avez été régénéré par cette parole. Ça veut dire que le sang de Christ coule partout là où vous êtes. Vous voyez? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu passe dans votre corps. Ça veut dire que la parole de Dieu a énergisé. Dites, j'ai été énergisé pour la victoire. Oh, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Ouh, dites, je suis béni. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 27. Ouh, qu'est-ce que ça veut dire si vous êtes. Dites, je suis une parole ambulante. Dites, je suis plein de grâce et de vérité. Vous voyez donc, là où vous allez, vous êtes la parole de Dieu en action. Oh. Vous voyez, c'est pour ça que ces questions de est-ce que Dieu veut ma santé? Est-ce que Dieu veut ma prospérité? C'est des questions qui ne sont même pas à se poser parce que vous êtes, en fait, vous êtes même plus que juste prospère. Vous êtes la prospérité même de Dieu pour quelqu'un d'autre. Vous voyez? Vous êtes la santé pour quelqu'un d'autre. Vous êtes la puissance de Dieu. Vous êtes le salut, la rédemption pour quelqu'un d'autre. Ok. Or, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Vous, chaque personne, vous êtes le membre, vous êtes un membre du corps de Christ. Dites, je fais partie du corps de Christ. Partout où je vais. Le corps de Christ se manifeste avec puissance et autorité. Et je suis énergisé pour la victoire. Vous êtes prêts encore? Oh, alléluia. Prenez 2 Corinthiens chapitre 3 et verset 3. Ouh, alléluia. Vous êtes puissant? Gloire à Dieu. Énergisé pour la victoire. Regardez ce qu'il dit. Car vous êtes manifestés comme étant la lettre de Christ. Oh, donc vous êtes le message de Christ. Dites, je suis le message de Christ. Écrite non avec de l'encre, pardon, dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais par l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair du cœur. Donc l'esprit de Dieu vient et il impacte sa parole au haut de cœur. Vous comprenez? Ouh, alléluia. Dites, je suis plus que victorieux. Dites, Dieu a embelli ma vie et il a fait de moi un succès. Je suis puissant et fort. Retournons rapidement dans Colossiens, rapidement, rapidement. Colossiens 3. Alléluia. Vous voyez, c'est pour ça que, comment, vous, un échec, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais vous savez, ça veut dire que vous, derrière, votre responsabilité, c'est de faire habiter la parole de Dieu dans votre cœur. Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16. Vous allez voir quelque chose d'absolument. Waouh. Que la parole, logos, le message de Dieu, du Christ, habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Pourquoi? Parce que cette parole est pleine de vérité et de. Ok, parfait, vous comprenez? Vous êtes tellement puissant et tellement, tellement intelligent que vous êtes. Vous voyez, parce que Christ a fait de vous son délice, vous comprenez? Le message de Dieu est pour l'humanité. C'est tellement quelque chose qui dépasse l'entendement, sincèrement. Hein. Dites, je suis un succès constant et absolu. Je ne peux pas rater. C'est impossible pour moi de rater. Oh, alléluia. Il y a une version en anglais qui dit que le message de Christ habite richement en vous. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous êtes puissant et fort, le savez-vous? Dites, je suis puissant et fort, parce que la parole de Dieu habite richement en moi. Alléluia, vite, encore un petit verset, vous êtes prêts? Dites, je suis puissant et fort. Vous voyez, la parole de Dieu et cette idée que Dieu a pour vous, et elle doit habiter richement en vous. Et si on peut voir le verset suivant, en fait, je m'excuse. Le 17, s'il te plaît. Oh, Alléluia. D'une manière puissante, grandit la parole de Dieu dans votre vie. C'est pour ça que vous devez méditer ce message. Et d'ailleurs, le message, ultimement, c'est ça. Hein. C'est une Bible écrite. Hein. Alors, bien sûr, vous pouvez lire des livres qui vous encouragent sur ça. Vous pouvez lire des livres sur l'étude de la parole. Vous pouvez écouter des enseignements. Mais la parole, c'est ça. C'est ce message écrit. Et quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Donc vous voyez, cette grâce, alléluia, elle a été déployée dans votre vie. Et vous êtes un succès constant par cette grâce. Et c'est vous qui affirmez ce que Dieu a pour vous. Et c'est vous qui marchez. Et là, vous voyez, vous devez laisser cette parole habiter richement dans vos cœurs. Richement. Ça veut dire que vous devez l'étudier encore et encore et encore et encore. Amen. Vous êtes prêts pour un tout dernier verset? Oui, j'entends que tout le monde est prêt. Alors on y va. Actes chapitre 19. Donc là, il y a Paul qui est à Éphèse et il prêche de Jésus à tout le monde, pour tout. Regardez ce qu'il dit. Non, le verset. Oh, j'ai pas dit verset, excuse-moi. Le verset 20. Dites, je suis énergisé pour la victoire. C'est avec une telle puissance que la parole. Logos du Seigneur croissait et montrait sa force. Donc, au fur et à mesure que vous méditez sur la parole de Dieu, au fur et à mesure que vous la mangez, si j'ose dire, que vous la laissez venir dans votre cœur, que vous laissez ce message changer votre pensée, vous allez tout d'un coup voir qu'elle croit en vous et qu'elle va montrer sa force à votre égard. Oh, la parole de Dieu est puissante. Dites, la parole de Dieu est puissante. Dites, alors que je médite la parole de Dieu, elle croit en moi. Pas croire, n'est-ce pas? Du verbe augmenter, n'est-ce pas? Croître, merci beaucoup. Dites, elle augmente en moi. Et elle montre sa force. De plus en plus fort. Est-ce que vous vous rendez compte que la parole de Dieu qui habite en vous va commencer par démontrer sa force? Et on a vu sa force. Hein. C'est Jésus-Christ qui ressuscite des morts, ultimement. Hein. D'accord? Ou même qui a créé l'univers et toutes ces choses-là. Amen. Gloire à Dieu. Ouh, le temps avance vite, nous devons clore le message. Mais quelle merveille! Et la semaine prochaine, nous allons étudier Réma. Ne manquez cela pour rien au monde. Sauf si vous travaillez, je peux comprendre. Mais le message est enregistré, donc écoutez-le après. Dites, je suis un succès. Dites que la parole de Dieu a embelli ma vie. Et je me remplis de cette parole. Oui, c'est comment est-ce qu'un chrétien pourrait être dans l'échec alors qu'il est rempli de la parole de Dieu? Ce n'est pas possible. Comment est-ce que la parole de Dieu, qui est le message de succès, est-ce que Jésus a déjà raté un truc? Jamais. Est-ce que Dieu a déjà raté un truc? Never. Never, c'est de l'anglais pour dire jamais, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Christ en moi, l'espérance de la gloire pour le monde. Pour le monde. Dites, je suis un succès. La parole de Dieu habite richement en moi. Et elle augmente en moi. Et elle montre sa force. Alléluia. Commencez à lever vos mains et bénissez Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît.